Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouveau podcast de Pourquoi tu cries, nous partons à la rencontre de Marc Rosmini, enseignant au lycée Artaud à Marseille, dans une classe unique en son genre.
Alors, quels sont les textes qu'on a lus, quelles sont les émissions qu'on a écoutées, quel est le film sur lequel vous avez travaillé, même un contrôle, qu'est-ce qui nous rappelle tout ça, un petit rappel. Alors, allez-y, Yanis.
Bah, on a lu le texte de Rosan Vallon, ainsi que le texte glissant de Chamoiseau et de François Julien. On a aussi étudié le film Tout simplement noir.
Ça veut dire quoi une communauté problématique ?
Allez-y. Une communauté problématique, c'est une communauté dont les limites ne sont pas définies. Par exemple, pour la communauté noire, on ne peut pas dire que quelqu'un appartient à la communauté noire. Enfin, peut-être que lui-même ne se sent pas appartenir à cette communauté-là. En soi, on posait plusieurs fois la question, qu'est-ce que être noir ? Est-ce que c'est simplement avoir la couleur de peau ? Est-ce que c'est parler justement une langue d'un pays noir, etc. Et certains ne se sentent pas appartenir à la communauté noire, parce que ben ils n'ont rien de tout ça, mis à part la couleur de peau, justement.
Où est-ce qu'on est ici, dans cet espace-temps un peu particulier ?
Alors nous sommes dans une classe qui est unique en France, alors qui relève d'un dispositif qui commence à être assez courant. C'est un dispositif global qui s'appelle la CPES, classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Donc c'est des classes en fait qui sont des classes de remise à niveau entre l'obtention du baccalauréat et les études supérieures. Alors il y a beaucoup de CPES, mais celle du lycée Artaud à Marseille est unique puisqu'elle permet à des élèves qui ont un bac professionnel industriel de rentrer dans un cursus d'études qu'ils n'auraient pas pu faire sans cette classe et surtout d'accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles, au CPGE. La CPGE qu'on a ici, notamment à Artaud, qui est normalement inaccessible aux élèves de bac pro directement. Donc c'est une classe qui a pour intérêt pour les élèves d'avoir des petits effectifs, d'avoir une équipe de profs assez stable, puisque bon, moi je suis depuis le début, je crois que c'est la 11e promo, si mes souvenirs sont bons. Et puis le gros avantage pour les enseignants, c'est qu'il n'y a pas de programme. Voilà, les CPS sont des classes sans programme. Celle-là, en plus, elle est unique en France, donc on voit mal qui aurait pu faire le programme, d'ailleurs, si ce n'est les professeurs qui enseignent. Donc je bénéficie d'une totale liberté, tant que, bien sûr, nous philosophons. Mais les formes, les sujets, les thèmes, etc., sont complètement libres, ce qui permet de monter des projets comme celui qu'on est en train de mener autour de ce sujet.
D'accord, parce que vous, donc, vous enseignez la philosophie, ce qui fait partie en fait du socle de cette classe, d'après ce que j'ai compris. Et vous avez choisi de parler, en tout cas cette année, autour du principe de communauté et communautarisme, c'est ça ?
Alors en fait, les AREJ, qui sont les ateliers de réflexion d'éthique des jeunes, dispositif qui existe sur la région, qui concerne pas mal de classes et pas mal de lycées, chaque année propose un thème. Le thème de cette année, c'était le lien, thème très, très vaste. Et moi, je privilégie souvent des thématiques qui relèvent de questions sociales vives, de questions polémiques, de thématiques qui envahissent un petit peu le champ médiatico-politique. Et donc, il m'a semblé que le lien, ça pouvait être effectivement interrogé par rapport à cette idée de communautarisme, entre guillemets. Et donc, la question que j'ai formulée à mes élèves, c'est comment savoir si... Alors, j'aime bien commencer les questions comme ça, plutôt que est-ce que le communautarisme est... Bon, qui suppose déjà qu'il existe, qu'on est d'accord sur ce qu'il est. Donc, comment savoir si... le communautarisme, entre guillemets, les guillemets sont importants, constitue réellement un danger pour le lien entre les citoyens et pour la République. Voilà, donc c'était partir de cette question-là. Aucun de mes élèves connaissait le mot communautarisme. Donc déjà, on voit que ce qui peut apparaître comme un grand problème, vu sous un certain angle, du point de vue de cette jeunesse-là, en tout cas, n'apparaît pas comme un problème central. Pas seulement parce qu'ils ne connaissaient pas le mot, hein, parce qu'ils auraient pu connaître le mot et pas l'idée, mais parce que, visiblement, leur manière de vivre la relation aux autres n'est pas marquée par cette idée d'un séparatisme entre des communautés, etc.
limite aussi sur le type de questions. Est-ce que vous en souvenez de ça? Allez-y.
J'entends qu'ils tournaient les questions de manière à ce qu'il y ait un flou, surtout par rapport aux communautés musulmanes, je crois, il me semble. Qu'ils ne tournaient pas la même question par rapport aux chrétiens.
Exactement. Exactement.
Ouais, c'était des questions problématiques. Genre, ils tournaient leurs questions assez floues sur des domaines, par exemple la République, des choses comme ça, ou même des lois liées par exemple à leur communauté, des choses comme ça. Et du coup, vu que la question n'est pas assez expliquée, ils vont répondre ce qu'ils pensent, mais au final, c'était pas peut-être vraiment ça la question à laquelle ils avaient pensé. Quoi.
Tout à fait. Donc effectivement, cette enquête nous avait paru problématique, d'abord parce qu'effectivement il y a des problèmes épistémologiques sur le nombre, des problèmes de formulation des questions, et puis après c'est l'usage qu'on va en faire. Puisque là effectivement si on lit, 15% des catholiques pensent que les normes et règles édictées, 38% des musulmans pensent que la loi islamique est plus importante. Alors il y avait aussi une autre question qui s'était posée sur le plus importante. Est-ce que ça vous paraît clair, le plus important? Est-ce que ça a du sens de demander à quelqu'un qui est très, très croyant, on va qui est par exemple bouddhiste, admettons, ou qui est juif, ou ce que vous voulez. Est-ce que ça a du sens de lui demander, est-ce que pour vous, les règles de votre religion sont plus importantes que les lois de la République, Florian?
Mais non, parce qu'elles ne sont pas forcément contradictoires. Genre, on peut être un bon croyant tout en respectant la loi.
Oui, voilà, tout à fait. Donc le fait de poser comme ça la question, Florian, ça implique quoi en fait?
Donc on doit faire un choix.
Voilà, exactement. Ça implique qu'on va choisir. Or, rien, absolument rien ne prouve qu'on ne peut pas être un très bon citoyen et à la fois quelqu'un de très pieux dans sa religion. Vous voyez, il n'y a pas d'antinomie. Pourquoi notamment? Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas forcément de contradiction? Est-ce que ça s'occupe de la même chose, les règles de la religion et les lois de la République? Est-ce que ça s'occupe de la même chose? Est-ce que c'est censé régler les mêmes problèmes?
En soi, non. Les règles, on va dire, entre guillemets... religieux s'occupe plus de la foi spirituelle, plus de la spiritualité de l'âme, etc., que des problèmes géopolitiques ou locaux, simplement.
Ou fiscaux, ou de la route. Ouais, tout à fait.
En vous écoutant, moi, je me suis demandé, depuis le début où vous travaillez sur ces questions, qu'est-ce qui a bougé en vous sur ces problématiques?
Je m'appelle Mathéo Delorme, je suis au lycée Artaud en CPES. Du coup, déjà, quand on a commencé à parler de communautarisme au début, pas tout le monde connaissait le mot, personne connaissait ce mot-là. On connaissait communauté, par exemple, des choses comme ça, mais c'était pas communauté dans le sens peut-être communauté arabe, communauté noire, des choses comme ça. C'était plus d'autres communautés, par exemple communauté du foot, des choses comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'il fait polémique de partout dans tout le monde. Il fait polémique parce que directement il cible une communauté où dans cette communauté-là, pas forcément, des gens ne devraient pas être visés tout simplement. Et du coup, je trouve ça un intéressant sujet parce que du coup, il fait polémique. Et deuxièmement, une communauté, ce qui fait la force, on va dire, de ce monde, c'est justement la mixité. Et on ne devrait pas parler simplement de communauté. Parce que du coup, ce monde avance grâce à ce genre de mix. Par exemple, les langues, elles sont toutes mixées entre elles pour donner des types de langues. Même les cultures, les plats, les choses comme ça. Donc voilà, on ne devrait pas parler de communauté pour moi. Et voilà, tout simplement. Rien à dire.
Non, merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas d'accord, des plus âpres débats, peut-être des choses encore que vous n'avez pas exprimées comme vous aimeriez les exprimer, ou ça a débloqué des choses?
Déjà, rien que la philosophie, on n'en a pas eu, par exemple, nous, l'année dernière, des choses comme ça, parce qu'on vient de bac pro, mais cette matière, du coup, nous fait reculer sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on voit d'autres aspects de la communauté, enfin des communautés ou du communautarisme. Et on a pu vraiment tout dire, on peut se lâcher, on va dire. Et mais sinon, on a pu tout parler, on a tout dit. Et, voilà, on n'est pas limité, on n'est pas fixé. Tous les jours, on s'ouvre d'esprit et voilà, ça nous fait changer d'avis assez souvent quand même.
Moi c'est Kylian Gaïa. Quand on a fait ce cours sur la communauté, Bah, au départ, je pensais pas que c'était aussi profond. Genre, il y a beaucoup plus de choses à comprendre quand on voit ce mot. Parce que déjà, il n'y a pas de définition vraiment exacte. Déjà, là, ça renvoie à un grand panel de sujets, finalement. La première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai dit, bon, c'est bon, on va travailler, on va faire un chapitre dessus. Et finalement, non, c'est très complet et très complexe aussi à comprendre, parce que c'est on sait on, le problème, c'est que vu que c'est il n'y a pas vraiment de définition exacte, c'est ça, il reste quand même flou, même après beaucoup de cours dessus, ça reste quand même quelque chose d'assez flou. Voilà.
Et en quoi ça te touche, toi, de parler de ces sujets-là?
Ben, ça me touche parce que vraiment, c'est quelque chose qu'il y a dans notre monde. Il y a beaucoup de mixité, une multiculture dans chaque pays, que du coup, c'est intéressant de savoir un petit peu si on peut les séparer ou alors s'il faut pas. Voilà.
Je m'appelle Morane Mrigny. Moi, sur ce sujet-là, pour être honnête, ça pas changé ma vision du monde. Vu que j'appartiens, enfin, on dit que j'appartiens à la communauté maghrébine, entre parenthèses. Donc sur ce sujet-là, honnêtement, j'ai réfléchi depuis mes 16 ans, quoi. J'ai été victime de discrimination dans certains lieux, dans certains. Quand par exemple j'essayais de chercher du travail, etc. Et donc honnêtement, ça n'a pas fait. Enfin, comment le dire? Ben ça m'a pas choqué, ça m'a pas fait changer mon point de vue, etc. Mais ça m'a fait du bien que d'autres personnes en parlent, d'autres personnes qui ne sont pas de ma communauté en parlent. Et ça me fait aussi du bien de savoir que ben, je suis pas le seul, quoi. Qu'il y a plein d'autres communautés discriminées, etc.
Est-ce qu'il y a des mots ou des idées qui t'ont mis mal à l'aise, ou est-ce que tu as senti que la parole elle était fluide et que entre vous ça circulait?
Ça m'a mis mal à l'aise, non, parce que, comment dire, dans cette classe, on est tous plus ou moins soudés, on se dit tous plus ou moins les choses, clairement. Donc, ça m'a mis mal à l'aise d'en parler avec ma classe, honnêtement, non. Pour l'apprentissage de certains nouveaux termes, par exemple, communauté d'épreuve ou autre, oui, j'ai appris enfin, j'ai enrichi ma connaissance sur le communautarisme, quoi. Je ne vais pas dire que ça a été inutile.
Alors, en assistant aussi à cette séance avec vous, on a vraiment l'impression d'une liberté de parole, d'un dialogue en fait entre le professeur et les élèves. Et c'est vrai que par rapport à comment se peut se dérouler une autre classe dans le système éducatif actuel, ça paraît complètement différent. Est-ce que vous expérimentez ici effectivement des choses que la pédagogie actuelle générale ne permet pas?
Alors, la liberté de parole, c'est surtout la mienne, qui est à peu près totale. Alors, sur la leur, j'émettrai peut-être quand même des nuances. Je pense qu'il y a toujours un petit peu d'autocensure. Je ne peux pas être à 100% sur ces questions de discrimination, de communautarisme, de communauté, de racisme. Les élèves disent précisément ce qu'ils pensent. Je crois qu'un élève, il est dans une situation institutionnelle quand même de hiérarchie, il est dans un cadre précis. Et malgré tout, je pense qu'il y a toujours au fond de l'élève le fait de dire quelque chose qui ne sera pas trop choquant, qui ne va pas le faire cataloguer par le prof comme étant raciste ou homophobe ou sexiste ou que sais-je, hein. Donc je pense qu'il y a toujours un petit peu d'autocensure. Alors j'essaie qu'il y en ait le moins possible, parce que je pense qu'on se fait relativement confiance, je pense qu'on se connaît bien, on passe beaucoup d'heures ensemble aussi. Je les ai 4h30 par semaine, donc ça fait quand même pas mal de temps avec un petit effectif. Donc je crois que ça, c'est important déjà. Il y a leur âge aussi, hein, c'est quand même des jeunes qui ont déjà le bac, donc qui ont une maturité, qui sont déjà assez avancés quand même dans une réflexion personnelle. Et il y a effectivement les dispositifs. Voilà, donc c'est certain que travailler ensemble, alors c'est pas le café du commerce non plus, puisqu'on travaille sur des objets de connaissance, hein, ça c'est très important. Comment savoir si, ça suppose que ni eux ni moi n'ont toutes les clés pour répondre à ces questions, qu'on a besoin d'enquêtes, qu'on a besoin d'études, qu'on a besoin de sociologie, qu'on a besoin de sciences politiques, qu'on a besoin d'étymologie, etc. On a besoin de philosophie, bien sûr. Mais justement, la question qui se pose, c'est de savoir comment, à partir de ces objets communs, on va avoir un vrai dialogue qui sera le plus libre possible. Donc ça s'instaure, je pense, alors j'espère, mais ça c'est un pari que je fais, j'espère que ma sincérité Bon, moi, j'ai aucune raison de pas être sincère et de pas être vrai, puisque j'ai rien à perdre ni à gagner, contrairement à eux. Donc, le fait que moi, j'essaie de cultiver une sincérité totale et aussi de poser radicalement les questions, avec des mots qui sont les mots, hein, voilà, si on dit juif, arabe, noir, homosexuel, on ne va pas chercher à tourner autour du pot, même si chacun de ces mots, bien sûr, est problématique en lui-même, hein, mais on peut les prononcer. Et j'espère toujours que la sincérité dont je fais preuve et que la liberté de critique et la liberté de questionnement que j'ai, ils pourront la partager. En sachant que nous ne sommes pas institutionnellement au même endroit et qu'il y aura toujours chez eux quelque chose qui se retiendra un petit peu plus que moi, parce que tout simplement, ils veulent rentrer dans un cadre et que moi, c'est moi qui incarne le cadre. Donc moi, personnellement, on a cette chance encore aujourd'hui en tant qu'enseignant d'avoir une liberté pédagogique qui nous permet d'aborder les sujets qu'on veut, les thèmes qu'on veut. Donc voilà, je pense que c'est une exigence partagée, une sincérité qu'on essaie de partager, quoi.
Et si je vous demande maintenant, dans le cadre du podcast, qu'est-ce qui vous met en colère en lien avec ces questions? Qu'est-ce qui pourrait vous faire réagir et crier dans la rue?
La justice. Il y a des choses dans la vie, c'est un peu écœurant que... Je sais pas, après je veux pas trop parler. Mais juste l'injustice.
Oui, mais l'injustice par rapport à quoi?
Par rapport à plein de choses, des lois injustes, des gens injustes envers d'autres gens, tout ça.
Ça te met en colère?
Un peu.
Et t'arrives à l'exprimer, cette colère?
Par la musique, beaucoup. J'écoute que de la musique et ça m'apaise.
Plus il y a de communauté, plus il y a de clichés. Chaque communauté a son propre cliché à elle. Et ça crée souvent des moqueries. Par exemple, une communauté chinoise, on va dire les mangeurs des chats, la communauté arabe vont dire les voleurs, etc. etc. Et moi, ça me met en colère parce que, après tout, on est tous des humains, quoi. Faut qu'on s'aime, faut qu'on apprend à vivre tous ensemble, sans frontières. Et voilà, cette histoire de communauté crée un peu des frontières entre les humains. Et moi, ça me met en colère, quoi. J'ai envie tous qu'on soit soudés. Il n'y a pas cette histoire. Je veux qu'une seule communauté, c'est l'humain. Voilà, l'humanité. Je veux pas qu'il y ait cette communauté-là. Souvent, il y a des communautés en tension. Et ça me plaît pas. Moi, je veux qu'on s'aime tous, qu'on soit soudés. Et voilà, qu'on ait une seule chose en commun, que c'est l'humanité.
Ça, vous pensez qu'on en prend le chemin ou c'est encore compliqué?
Ah, pour l'instant, on est très loin, on est très loin de ça, mais j'espère que ça va arriver bientôt.
Après, parler de quelque chose qui met en colère, c'est pas quelque chose qui met vraiment en colère, mais c'est plus quelque chose de triste, enfin, qui personnellement me rend triste, de me dire que parce que je suis né dans cette famille, dans cette catégorie de personnes-là, que je suis né maghrébin, tout simplement, je subis des discriminations, enfin certaines discriminations. Je trouve que ça me rend triste, mais justement, faut pas céder à cette haine-là, justement. Faut justement combattre ça. Faut pas combattre le mal par le mal, c'est ce que je veux dire. c'est qu'il faut plutôt le prendre d'un bon sens. Et avancer tout simplement, tous ensemble. Par exemple, on parlait de tout à l'heure de si la situation va s'améliorer. Franchement, je trouve que oui, personnellement, je vois la situation s'améliorer. Enfin, je vois ça d'un bon œil. Avant, il existait plus de communautarisme que maintenant. Enfin, c'est ce que je vois personnellement. Il y avait moins de mixité, maintenant il y en a beaucoup plus. Il y a plus en plus de personnes qui étaient discriminées, qui deviennent des patrons, des chefs d'entreprise et qui empêchent justement cette discrimination-là. Il y a plus de combats aussi, plus d'associations, plus de bonnes choses qui font qu'on avance tous ensemble, tout simplement. Et c'est tout.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne envie de crier sur ces problématiques-là ou sur les questions d'enseignement?
Alors, ce qui me donnerait envie de crier, en fait, c'est peut-être le décalage entre ce que je vis, moi, en tant qu'enseignant au lycée Artaud, par exemple, depuis des années. Donc, un lycée qui a la chance d'être assez, comment dirais-je, hétérogène au niveau de son recrutement, qu'il s'agisse de niveau socio-économique, qu'il s'agisse de l'origine des élèves, etc. Ce n'est pas le cas partout. Malheureusement, hein, y a certains lycées qui ne sont pas aussi... aussi hétérogène, aussi mixte, aussi mélangé, je ne sais pas trop quel mot on peut utiliser. Donc, c'est le décalage que je vois entre la réalité de ce que je vis, moi, avec les jeunes et ce qu'ils vivent entre eux. Puisqu'il y a quelques années, au lycée Artaud, on avait même lancé une consultation anonyme auprès des élèves pour savoir si, au lycée, ils subissaient du racisme, de la discrimination, de l'homophobie, des tensions liées à leur religion, à leur absence de religion. Et ce qui était ressorti, c'était une enquête anonyme. Donc là, les élèves, pour le coup, ils risquaient rien, pas comme quand ils parlent. Eh bien, il était ressorti très, très massivement qu'il n'y avait pas de souci, qu'entre eux, ils s'entendaient bien, quelle que soit leur origine, enfin, un peu ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Mais là, c'était d'autant plus réjouissant qu'ils le disaient vraiment de manière anonyme. Donc voilà, moi, ce qui me met en colère, à vrai dire, c'est la tension entre moi, ce que je vois de la jeunesse, de ce qu'elle est, du respect qui existe entre eux, du respect qui existe entre nous. Effectivement, comme le disait Marouane, je ne suis pas complètement pessimiste parce que je sens quand même que sur ces questions de différence, etc., il y a quelque chose qui est plus fluide et plus intégré chez les jeunes. Je discute beaucoup avec des jeunes, je discute aussi avec des gens dans mon quartier, au bar, avec des gens de ma famille, etc., avec des gens plus âgés. Je vois quand même que ça bouge plutôt dans le bon sens, à vrai dire. Et alors que ce que nous renvoie parfois un discours politico-médiatique, et peut-être cette année en campagne électorale, ça va s'aggraver encore. Cette idée comme ça d'une jeunesse apocalyptique, communautarisée, fermée sur elle-même, violente, etc. Alors que ce n'est pas du tout ce que je vis. Et ce décalage-là, je le trouve terrible, parce qu'en fait, il y a une sorte de schizophrénie entre ce que j'entends dans la bouche de certains journalistes ou politiciens, et puis le réel. J'ai envie de leur dire, mais venez. Venez Artaud, venez voir mes élèves, venez voir les jeunes tels qu'ils sont. Et d'ailleurs, parfois, j'ai invité des gens à Artaud qui sont repartis, notamment des gens connus, hein, que je ne citerai pas, mais en me disant, ah, mais on n'imaginait pas ça du tout, un lycée à Marseille, bon, Marseille, 13e arrondissement, tu vois, on parlait des clichés, bon. Et en plus, ils arrivent, les jeunes sont polis, ils leur disent bonjour, ils posent des questions intelligentes, ils sont respectueux, enfin voilà, ce que je sais, moi, bien sûr, mais ce n'est pas forcément ce que renvoie l'image des médias sur les jeunes d'aujourd'hui, les lycées d'aujourd'hui, les lycées de Marseille d'aujourd'hui. Et voilà, ce décalage, il est terrible, parce qu'il produit, bah, après, il produit... Il produit bien sûr des clichés, il produit des stéréotypes, il produit des préjugés, il produit des crispations identitaires qui sont très très largement, me semble-t-il, infondées, quoi.
Merci. Et merci à vous de m'avoir accueilli cet après-midi.
Merci à vous. Il n'y a pas de souci, madame. Venez quand vous voulez.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.